Nous continuons cette émission donc en accueillant comme prévu Christian Boltanski, un artiste doublement à l'affiche sous la nef du Grand Palais, d'une part dans le cadre de Monumenta avec une œuvre intitulée « Personne » au pluriel, et puis au Macval à Vitry-sur-Seine avec une exposition intitulée « Après », deux expositions pensées par vous, Christian Boltanski, comme complémentaires, comme deux cercles de l'enfer, vous l'avez dit, ou comme deux actes d'opéra, selon la métaphore que l'on choisit. Avant d'en parler, dire aussi que l'on a appris que vous avez été choisi, Christian Boltanski, pour représenter la France à la prochaine Biennale de Venise en 2011. Alors justement, vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous accueillir ici par le passé. Nous nous sommes croisés quelques fois. Vous savez que je suis un grand admirateur de votre travail, ce qui me permet de vous poser cette question un peu abrupte. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange d'avoir enfin donc un artiste français à Monumenta, Christian Boltanski, le même à la Biennale de Venise 2011, aurait-ce été un autre, quel qu'il soit? Est-ce que c'est pas du coup faire beaucoup un coup de projecteur très important sur le même artiste? Je vous dis ça avec tout le respect que je vous dois, Christian Boltanski.
Tout ça est un peu lié au hasard. Que effectivement, en fait, pour Monumenta, on m'avait proposé d'être le premier artiste. Et puis moi, j'aime travailler très lentement. Et donc, j'ai préféré qu'il y ait plus de temps. La Biennale de Venise, vous savez, c'est une chose qui... Je crois que j'aurais pu présenter un travail il y a beaucoup d'années. C'est un peu les sortes de hasards. Vous savez, c'est comme pour le pape, il y a les papabili, je ne sais pas comment ça on dit, il y a 15 cardinaux qui sont possibles. Et puis, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, il y en a qui l'ont avant, il y en a qui l'ont après. Et ça joue un petit peu, je crois, au hasard. Tout pose une question différente. Je pense que Venise est un lieu très difficile, différent du Grand Palais, peut-être même plus difficile que le Grand Palais. Mais bon, vous savez, il y a une chose, naturellement, quand on vous propose ça, on est content, puis en même temps, on se demande est-ce que j'accepte ou non. Et il y a différentes choses qui m'ont fait accepter. D'une part, c'est une histoire que... J'avais un vieil ami de ma famille et il montrait toujours son agenda et il disait alors jeudi j'ai un déjeuner, puis vendredi je dois faire une conférence et samedi j'ai telle chose et alors dimanche je dois partir en Bretagne. Et bon, il disait je ne peux pas mourir la semaine prochaine, je suis tellement occupé. Et je crois qu'une des choses qui nous font accepter des choses comme ça un peu long terme, c'est de se dire je ne peux pas mourir. J'ai un rendez-vous, quoi. J'ai pas manqué. Donc ça, c'est sûrement une chose qui nous fait agir. Et l'autre chose, c'est que j'ai une passion gigantesque dans ma vie pour la brandade de morue qu'on ne peut trouver qu'à Venise, qui est faite sans pommes de terre. Et c'est seulement de la morue qui est battue avec de l'huile. Et c'est très difficile d'en trouver ailleurs. Et donc, c'est une bonne raison aussi de se dire que je vais avoir un temps assez long où je vais pouvoir manger de la brandade.
Pascal Auré qui intervient déjà, pardon, je ne vous ai pas encore représenté, Pascal Auré, mais vous êtes là et vous intervenez, tout comme Vincent Huguet qui va être amené à réagir aussi, et Sophie Joubert qui est restée à mes côtés. Alors, cela étant dit, hein, Christian Boltanski, j'ai très hâte évidemment d'être en 2011, donc je ne peux pas mourir d'ici là, puisqu'il faut que je vois ce que vous allez faire de ce pavillon impossible, ce pavillon français, l'architecture complexe, beaucoup, beaucoup s'y sont cassés les dents, enfin, en tout cas un vrai casse-tête. Bon, on en reparlera, j'espère, ensemble. Plus tard, enfin que les choses soient claires, évidemment, j'ai hâte de voir cela. Alors, la dernière fois que je vous avais reçu, c'était avec Abbas Kiarostami. Vous préfaciez un livre de photographie du cinéaste et donc photographe iranien. La fois précédente, c'était avec Catherine Grenier, qui est la commissaire de cette exposition Monumenta. Vous étiez venu parler avec elle de ce livre, La vie possible de Christian Boltanski, paru chez Fiction et Compagnie, aux éditions du Seuil. Un livre d'entretien au long cours, sorte de psychanalyse de Christian Boltanski. Un livre que vous n'avez jamais lu, toujours. M'avez-vous dit?
J'ai toujours jamais lu ce livre.
J'ai toujours jamais lu, c'est bien comme phrase.
Voilà, oui.
Il ne faut pas le lire.
Toujours jamais, oui. Non, il ne faut pas le lire. D'abord, je connais bien le personnage. Pas très sympathique. J'aurais pas beaucoup de suspense parce que les événements, je les connais un petit peu. Donc voilà pourquoi.
Enfin, surtout ne pas regarder et revenir sur votre propre biographie, ce que je fais malgré tout en votre présence, juste pour celles et ceux de nos auditeurs qui vous connaissent moins bien. À la question de Catherine Grenier, raconte-moi ton premier souvenir, vous répondez après différents propos. Il est certain que je me souviens depuis toujours de la honte d'être juif. Pas d'être juif, hein, mais de la honte d'être juif, ce sont vos propres mots. Christian Boltanski, ça renvoie aussi au fort sentiment religieux de votre père, converti au catholicisme. Ou plutôt, expliquez-vous, selon le roman familial qui avait choisi le catholicisme, parce que c'était moins compliqué que le judaïsme. Ça, c'est l'histoire qu'on se raconte chez les Boltanski. Sauf qu'ils ne se sentaient pas autorisés à rentrer dans les églises. Donc, vous alliez devant l'église en voiture et puis vous restiez tous dans la voiture pendant la messe. Rappelez aussi que la cellule familiale, c'est un mot qui convient bien puisque vous restiez toujours groupé, que votre première sortie seule, Christian Boltanski, vous l'avez faite à l'âge de 18 ans. Je passe vraiment très vite sur cette enfance qui est évidemment matrice de l'œuvre à venir. Mais justement, nous étions avec James Ellroy la semaine dernière et je lui demandais si l'écriture, parce que lui aussi a eu une enfance d'une autre façon compliquée, lui avait sauvé la vie. Il me répondait que oui. De fait, est-ce que la pratique artistique, Christian Boltanski, alors je ne sais pas si elle vous a sauvé la vie, mais est-ce que vous a permis de vivre?
Je pense que c'est une chance énorme d'être peintre, d'être artiste, parce que on ne parle pas du malheur, on ne parle pas de son malheur, on parle du malheur. On ne parle pas de sa tristesse, on parle de la tristesse. Et on fait passer tout ce qui est en soi sur l'autre. C'est-à-dire que la grande chose de l'art, c'est de parler de son village et que chacun dise c'est mon village. Et que chacun qui vous regarde ait une manière de terminer l'œuvre qui soit différente par rapport à son propre vécu. Mais en tout cas, il partage avec nous. Et donc, c'est une manière de se débarrasser. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de lente psychanalyse, parce que c'est une manière de s'en débarrasser en le passant aux autres, en quelque sorte. En passant cette angoisse aux autres. Plus on travaille, enfin, j'aime pas le mot travailler, mais donc plus on fait de choses, moins on existe. Et on devient le désir des autres, ou le portrait des autres. Je pensais ça, maintenant je suis un peu plus loin de ça, mais je pensais que chaque artiste n'avait plus de visage et à la place du visage, il y avait un miroir et chacun disait « c'est moi ». Et que c'était merveilleux finalement, et ça c'est justement, plus on vieillit, plus c'est merveilleux d'arriver à un certain âge où on ne vit plus, où on n'est plus que ce désir des autres. Et de même que je dis toujours pour m'amuser que Giacometti ressemblait à Giacometti, et Francis Bacon à Francis Bacon, et moi à une boîte de biscuits. De même, je crois que on n'est que le désir des autres. Et il y a une petite nouvelle de Bradbury là-dessus, où c'est des gens qui ont adopté un enfant martien, puis ils se promènent dans la campagne, puis un jour ils vont en ville avec cet enfant martien. Non, ils ont, parce que je suis très abouti ce matin. Et donc, ils ont perdu un enfant. Et puis ils vivent à la campagne, et ils voient leur fils qui se balade sur la route. Et puis, ils sont très contents de retrouver cet enfant qu'ils croyaient mort. Et puis, ils vont en ville avec cet enfant. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'un jeune homme se précipite sur cet enfant en disant « papa ». Et puis, une femme dit « grand-père ». Et en fait, ils comprennent que cet enfant est un martien et que cet enfant n'a le visage que du souhait des autres, du désir des autres. Et je pense que quand on est artiste, on est un petit peu comme ça.
Donc, vous êtes un martien?
Je suis... Mais c'est pour ça que c'est très, très douteux, parce que c'est un peu prétentieux, ce que je dis. Oui, j'aimerais, en tout cas, si vous voulez, la plus belle chose qu'un artiste peut faire, c'est de faire ressentir l'odeur du café qu'on avait avant d'aller à l'école et que chacun dise comment il connaît cette odeur de café. Voilà. Et que chacun reconnaisse une odeur de café différente.
Alors, vous avez parlé de visage, Christian Boltanski, vous avez parlé de boîte de biscuits, mais justement, pour donner encore quelques images à nos auditeurs et pour entrer dans votre travail, avant de parler très précisément des œuvres qu'on voit actuellement, il y a un vocabulaire plastique de Christian Boltanski, alors qui peut être des photos de visage, qui peut être des ampoules, qui peut être des boîtes de biscuits, qui peut être des vêtements, ou simplement des photos de regard aussi, pas seulement des visages. Justement, qu'est-ce qui détermine le fait que tel ou tel élément entre dans votre vocabulaire? Parlons, prenons cet exemple-là, celui des boîtes de biscuits. À quel moment, dans votre travail, la boîte de biscuits apparaît? Comment vous l'utilisez?
La batte de Bisky, c'est un objet que j'ai utilisé il y a vraiment très très longtemps, dès 71 ou une chose comme ça. Et en fait, si vous voulez, moi je suis né à l'art au temps du minimalisme. Et mon vocabulaire est un vocabulaire minimaliste. Mais il se trouve que je suis un minimaliste sentimental ou un minimaliste expressionniste, qui sont des choses tout à fait contradictoires. Alors, la boîte de biscuits avait énormément d'intérêt. D'une part, c'est quelque chose qui est peu coûteux.